Donc je m'appelle Harold Le Chien, je viens de Belgique et je suis artiste, disons, multidisciplinaire. Je travaille autant la vidéo, le film, que l'installation et la sculpture. Et c'est ma deuxième année ici au Fresnois que je termine. Et je présente une installation qui s'appelle I Could Live Here Forever, donc constituée de trois films incrustés dans des cadres qui rappellent des cadres photo-souvenirs.
C'est un film, enfin un triptyque avec trois espaces où on voit des personnes. Donc ces trois personnes ont des fonctions, des rôles différents. Et puis ça interroge aussi sur comment on peut exister encore une fois qu'on a mis son image en public, comment elle est détournée, contournée, transformée, bouleversée. Quand je dis l'image, ça peut être le son aussi.
Oui, bien sûr. En fait, l'idée ici, c'est de travailler donc l'image que renvoient ces protagonistes. Et cette image-là, elle est rendue intentionnellement presque artificielle. Donc je travaille les artifices comme une forme de médium, c'est-à-dire que même le son, ici où on a travaillé une des séquences avec un bruiteur face à un acteur, et il y a une forme de bruitage qui est filmée en direct. Donc c'est cette forme d'artifice de refaire du son en post-production est montrée directement à l'image. Et c'est le cas aussi pour les autres scènes où il y a une intelligence artificielle, où j'ai travaillé directement avec une actrice sur laquelle j'ai calqué le visage de l'actrice Scarlett Johansson, donc qui a été en déboire avec ChatGPT et en essayant de protéger sa propre image. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et donc il y a toutes ces formes d'artifices qui sont vraiment rendues visibles et que je travaille bien souvent comme une forme de médium artistique en tant que tel. Et voilà, la séquence du milieu, du coup la présentatrice météo, c'est une actrice qui est vraiment désincarnée, que j'ai jamais vue, avec qui j'ai travaillé à distance, donc sur des services en ligne, sur internet.
Donc le personnage qui est à ma droite là, à la fin se révolte contre la situation justement que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire être dépossédé de son image, de sa voix, etc., et de ne plus trop savoir quelle place elle occupe dans la réalité.
C'est exactement ça. Donc c'est une forme d'instabilité, de désincarnation qui, moi, m'intéresse parce qu'elle est en même temps présente pour les protagonistes qui sont derrière la production d'images, mais aussi pour les consommateurs. C'est-à-dire que nous, on consomme des images souvent sans savoir comment elles sont produites, sans savoir d'où elles viennent et sans savoir qui sont les gens qui s'adressent à nous. Et cette forme de flottement, de flou, j'ai souhaité le rendre visible et aussi le critiquer, mais ici de manière assez poétique et narrative. Et en effet, cette personne qui incarne une version artificielle de Scarlett Johansson semble presque se rebeller à la fin de cette séquence, où elle est face à un manager de travail qui lui demande de performer. Et on voit qu'elle n'y arrive presque plus. C'est-à-dire qu'on demande tellement aux gens de jouer de leur propre image, de leur propre contenu, si bien que ça devient des images qui sont des produits consommables. Et donc les identités deviennent des produits consommables en tant que tels. Et c'est cette question-là que j'avais envie d'évoquer et de critiquer.
Donc j'imagine que cette interrogation, ce questionnement, il est vraiment aujourd'hui crucial à aborder avec les acteurs de la production d'une manière générale.
Ouais, bien sûr, je pense que aujourd'hui on ne peut pas passer à côté, évidemment, et ça m'intéresse aussi de travailler des questions qui sont parfois plus anciennes, comme le bruitage qui existe depuis longtemps, mais qui en fait occupe une partie prépondérante aujourd'hui de la production de l'image, où les sons sont toujours presque produits en off. On rajoute des productions sonores, de la musique, on rajoute des voix. Par exemple, les voix off ici que je travaille, ce sont toutes des voix désincarnées, où j'enregistre des voix off avant qui sont rejouées en lip-sync, donc en synchronisation labiale, par les acteurs et les actrices, ce qui crée une forme d'étrangeté que j'aborde ici. Et puis c'est cette étrangeté-là que j'essaye de travailler pour que ça pose certaines questions aux spectateurs sur comment les images sont produites. Et donc en effet, c'est assez crucial aujourd'hui, et c'est une thématique que je travaille toujours dans mon travail, d'essayer de le montrer de manière visible et de montrer aux spectateurs comment les images sont construites.
Est-ce que vous vous interrogez, ou est-ce que vous interrogez aussi sur le fait que les générations qui se succèdent n'ont pas forcément eu la même culture, le même bain culturel, et les plus récentes, on va dire, sont directement en phase avec de la réalité virtuelle, avec du monde artificiel pratiquement réaliste, sinon même hyper réaliste, et comment on peut se construire en tant que personnalité par rapport à tout ça. Vous posez quand même cette question.
Oui, bien sûr. En fait, c'est la question de base et cruciale dans mon travail, et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est la manière dont l'émotion circule et l'authenticité et le changement d'identité que la consommation d'images peut provoquer. Donc, bien sûr, dans la nouvelle génération qui arrive, mais aussi auprès des gens qui ont vécu avec une forme de production télévisuelle et cinématographique et qui aujourd'hui sont face à une production d'images qui est beaucoup plus tentaculaire, en fait. Et pour moi, c'est une manière, évidemment, j'essaye de l'évoquer, mais aussi de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a toute une narration ici où je travaille avec un écrivain qui s'appelle Gabriel René Franjou, et avec qui on a vraiment tenté d'expliquer ces mécanismes de production d'images aussi dans la narration, pour donner des clés de lecture à différents publics, donc des gens qui soient peut-être moins initiés à ces formes d'images, et aussi qui peuvent résonner auprès de cette nouvelle génération qui est habituée, en fait, à voir des images construites de ces manières-là.
Alors, ces images sont construites d'une certaine manière. Est-ce que l'esprit des personnes qui les regardent se construit aussi au fil du temps? Et est-ce qu'on peut encore garder, enfin, est-ce qu'on pourra encore longtemps garder un esprit critique vis-à-vis de ce qu'on observe?
Bah, ça, c'est une bonne question. Et moi, je souhaite évidemment que les gens puissent avoir un esprit critique sur la manière dont ils vont consommer les médias. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être une priorité dans l'enseignement aujourd'hui. C'est le droit de l'image, la manière dont on peut sourcer ce qu'on regarde. Et c'est vraiment une question cruciale, même dans l'art aujourd'hui. Et c'est pour ça que je rends tous ces dispositifs visibles aussi. C'est vraiment pour essayer de... Enfin, j'ai pas la prétention de dire d'éduquer le regard, mais disons de préparer le regard à cette construction qui est artificielle. Mais quand je parle d'artifice, c'est aussi pour dire que l'artifice devient vraiment réel. Donc il y a de moins en moins de distinction entre le réel et la fiction. Et que toutes ces fictions qu'on peut regarder tous les jours, au final, deviennent des nouvelles réalités parce qu'elles provoquent de l'émotion chez le spectateur. Et c'est cette question-là qui m'intéresse. Donc ça devient une forme de nouvelle nature qui devient vraiment réelle et tangible.
C'est vrai qu'au fil du temps, on voit la définition de plus en plus extraordinaire des images. Et même... je pense même aux robots qui peuvent avoir des apparences pratiquement réalistes. Mm-hmm. Et par rapport à ça, on présente des personnes qui ne sont pas réelles, mais qui ont une forme de présentation qui soit plus charmante ou charmeuse que la réalité. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à accepter la réalité ?
Je pense qu'une partie de la population ne l'accepte pas, en un sens. Il y a déjà une forme de refus, et même de refuge par rapport à la réalité chez certaines personnes. Je pense par exemple aux hikikomori au Japon, donc ces personnes qui vivent reclus et qui vivent beaucoup avec les images qu'ils choisissent de consommer de manière digitale ou virtuelle. Et donc il y a une forme de refus de voir la réalité qui est en fait parfois trop humaine, qui comporte trop de faiblesses, de défauts, d'humanité. Et c'est parfois plus facile de se réfugier dans quelque chose de plus lisse et de plus libre aussi, parce qu'on peut choisir les images qu'on regarde. On peut être bien sûr orienté grâce aux algorithmes qui sont en train de provoquer nos propres choix. Mais il y a une forme de facilité. Et cette facilité-là, elle est disons trop simple. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument avoir une forme de recul sur la manière dont on consomme, et puis quelles entreprises sont derrière les médias qu'on va regarder. Et oui, ce regard-là, il est très important.
Le fait de se réfugier dans des images virtuelles plutôt que de s'affronter, enfin de se confronter, ou du moins s'intégrer à une réalité humaine, c'est une fuite en avant. Est-ce qu'on peut encore y échapper vu la tendance actuelle? Est-ce que les artistes, d'une manière générale, vu leur diversité, peuvent permettre une alternative, des choix différents, etc.?
Bah, je pense que c'est le rôle de l'art de faire un peu une forme d'office de plateforme tournante et de pouvoir provoquer des questions et une forme de détournement, une forme de prendre ces nouvelles technologies comme elles sont, de les détourner, d'interroger leur production pour que le spectateur puisse se poser un certain nombre de questions. Et je crois pour cette question d'accepter l'autre en un sens, j'espère évidemment que les gens vont continuer à s'accepter dans leur enveloppe charnelle et vont continuer à avoir des rapports entre eux. Mais il y a une forme de risque, évidemment, il y a une forme de perte de réalité. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait finalement. C'est que moi j'ai envie de rendre ces réalités qui sont complètement virtuelles, au final très humaines et empreintes d'humanité, de faiblesse. Tous ces personnages sont dans une forme de lutte pour exister. Parce qu'ils sont issus du virtuel, mais je pense aussi parce que nous, en tant que consommateurs, on est aussi dans une forme de lutte pour exister face à ces images. On est dans une forme de lutte aussi de faiblesse humaine par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on consomme. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que c'est un risque et que tout va basculer, mais je suis plutôt là pour être à ce moment-là et dans ce contexte précis pour amener une forme de nouveau regard et une forme de réflexion par rapport à, et de poésie aussi par rapport à tout ça.
En termes de visibilité, est-ce qu'un jour on taira tous les affreux ?
Ben j'espère pas, parce qu'il y aura toujours des affreux derrière les images pour les faire circuler. Et c'est comme les intelligences artificielles, au final il y a beaucoup de gens qui parlent partout pour se dire qu'est-ce qui est dangereux là-dedans. Mais pour moi ce qui est toujours le plus dangereux, c'est les personnes qui tirent les rênes de ces outils et qui sont en fait des entreprises. Donc à qui ça appartient, dans quel objectif, qu'il soit commercial ou politique. Et c'est plutôt les humains qui sont derrière qui m'inquiètent que la technologie en tant que telle qui va pouvoir vivre et peut-être à un moment supplanter l'humain en étant plus intelligent et en étant plus capable de réflexion et de, disons, d'humanité. Mais ce qui me fait peur, c'est plutôt les affreux qui sont derrière tout ça. Et je pense qu'il y en aura toujours, mais il faut pouvoir éduquer le regard, en fait, sur la manière de... à qui ça appartient, je pense, aussi.
On est à la croisée des chemins ?
Je pense qu'on a toujours été dans une forme de croisée des chemins, surtout dans la production artistique, où la naissance d'Internet, ça a été une véritable révolution. Et aujourd'hui, l'IA, c'est une forme de nouvelle révolution. Donc pour moi, j'ai toujours vécu dans une forme de croisée des chemins, où ce qui m'intéresse, c'est cette sorte de moment de connexion entre l'image, l'humanité, et puis le futur et la manière dont on va consommer différemment, comment est-ce qu'on va se situer par rapport à ça. Et ces questions-là, je trouve qu'elles sont hyper importantes pour les artistes. Quelle est notre position par rapport à ce croisement-là ? Donc oui, on est à la croisée des chemins.